Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, le 7 mai 1954, le camp français retranché de Dien Bien Phu cède sous la pression du Viet Minh. Cette défaite, largement commémorée ces derniers temps dans la plupart des médias français, a rappelé la dimension épique de l'événement, non sans une certaine nostalgie parfois et avec tout ce que cela comporte comme symbole. Dien Bien Phu et ses positions, Dominique, Béatrice, Huguette, Isabelle, il y a bien sûr l'héroïsme des soldats français combattant à 1 contre 5, ou encore l'ange de Dien Bien Phu, Geneviève de Galard. Mais pourquoi Dien Bien Phu? Pourquoi cette position au nord-ouest de l'actuel Vietnam fut-elle choisie? Quels furent, avant la bataille, les choix politiques du gouvernement français concernant l'Indochine? Enfin, quel était l'état réel des forces françaises si loin de la métropole? Bref, que fut Dien Bien Phu avant Dien Bien Phu? C'est ce qu'Un jour dans l'histoire vous propose de découvrir avec Pierre Pélissier. Pierre Pélissier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, écrivain, spécialiste de l'histoire militaire. Vous avez écrit plusieurs ouvrages dans le domaine. Je citerai notamment une biographie de Massu parue en 2003. Et vous venez de publier une monographie consacrée à la bataille de Dien Bien Phu aux éditions Perrin. Alors, Pierre Pélissier, la tragédie de Dien Bien Phu a livré des centaines de témoignages. Il y a de nombreux ouvrages encore qui viennent de sortir. Le plus souvent, ces ouvrages sont passionnés. Votre démarche, vous, et votre travail, a d'abord été un travail de synthèse en dehors de cette passion?
Oui, il fallait un peu sortir des ornières, des travers, des engagements. Il fallait essayer de comprendre pourquoi avait eu lieu Dien Bien Phu, comment s'était déroulée la bataille. C'est-à-dire qu'il fallait aller chercher les choses bien avant et bien après. Le récit de la bataille, il en existe des quarantaines, des cinquantaines. Ils sont parfois très bons, ceux des témoins notamment. Ils sont parfois un peu plus douteux. Mon travail n'était pas de réécrire la bataille jour après jour, bien que, évidemment, je refais quand même le chemin des combattants. Mon travail était d'aller chercher ce qui se passait ailleurs et en même temps. Ce qui était quand même important, ça se passait à Paris, à Washington, à Londres, Genève, Berlin, Moscou.
Alors oui, donc vous sortez du cadre de Dien Bien Phu pour au fond avoir une vision globale.
Oui, mais avec Dien Bien Phu toujours en toile de fond, jamais oublié, parce que finalement, toutes les négociations tournent autour de l'avenir du camp, tous les conflits tournent autour de ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Donc, si vous voulez, Dien Bien Phu tient sa place, mais seulement sa place, celle de 12 000 garçons que l'on envoyait pratiquement se faire tuer dans une cuvette du Haut-Tonkin.
Donc, j'insiste bien, Pierre Pélissier, cette émission a pour but de présenter au fond Dien Bien Phu avant Dien Bien Phu, la période 1945 à 1953. Et alors, le premier élément que l'on a tendance à oublier est que tout se passe à peine 8 ans après la Deuxième Guerre mondiale.
C'est un élément important parce que ça explique aussi pour partie l'indifférence de la France. La France est usée, lassée de la guerre qu'elle n'a pas souvent faite d'ailleurs, mais la France n'a pas envie d'un autre conflit. Donc elle reste totalement indifférente, d'autant plus, nous le verrons, que les gouvernements successifs ne se décident jamais à envoyer les appelés du contingent. Ils confient cette guerre à une armée de métier que l'on prendra pour des mercenaires. En fait, c'est une authentique armée de métier, celle qui a fait la campagne d'Italie, qui a libéré la France et conquis l'Allemagne. Et ces gens-là ne sont pas en harmonie avec le reste du pays qui enfin souffle et heureux de son indifférence en quelque sorte.
Alors, un homme joue un rôle bien évidemment déterminant en 1945 et en 1946, c'est Ho Chi Minh. Qui est Ho Chi Minh?
Alors, selon que l'on regarde Ho Chi Minh sous un côté ou sous un autre, on a un personnage totalement différent. Ho Chi Minh va quand même réussir ce miracle à faire croire aux Américains qu'il est un nationaliste bon teint. Et effectivement, les Américains seront très longs à comprendre que c'est un agent soviétique de la plus pure tradition. Donc, face à la tradition colonialiste française, que l'on croit encore bien en place à Washington, les Américains vont jouer la carte Ho Chi Minh pour enquiquiner les Français. Il se passe la réunion de Potsdam, qui est une réunion intéressante en 1944, où l'on décide, entre Anglais, Américains et Russes, de l'avenir de l'Indochine. C'est assez pittoresque, car on oublie de parler avec les Français. Et l'on décide de couper l'Indochine en deux, sensiblement comme elle le sera quelques années plus tard, et on envoie dans le parti sud, avec Saïgon comme base de départ, les Anglais remettre de l'ordre dans l'Indochine française. Les Anglais qui d'ailleurs, avec un certain humour, envoient des troupes indiennes. Le général Garcet est un général assez compréhensif, les choses se passeront bien. Mais au nord, on envoie des Chinois, les Chinois de Chiang Kai-shek, la Chine étant encore nationaliste. Or, les Chinois ont une particularité, ils n'aiment pas les Tonkinois et vice-versa. Et les Japonais étant là, c'est aux Chinois de désarmer les Japonais. Alors on va assister à un jeu complètement fou. On va voir les Japonais qui vont monter les Vietnamiens contre les Français. Les Chinois qui ne vont s'occuper ni des Vietnamiens qui ne les aiment pas, ni des Japonais, mais qui vont essentiellement piller le Tonkin. Et les Français vont arriver dans cette ambiance qui est complètement pourrie avec contre eux tout le fond du peuple tonkinois qui a été travaillé par les services de Ho Chi Minh.
Alors, que va faire Ho Chi Minh ? Ho Chi Minh, au fond, vous le disiez tout à l'heure, c'est un nationaliste. Il tient à déclarer l'indépendance. D'ailleurs, il déclare l'indépendance du Vietnam.
Alors là aussi, nous rentrons dans des complications sans nom. Il déclare l'indépendance du Vietnam et il reçoit le soutien de l'empereur Bao Dai. Bao Dai, depuis quelques mois, se conduit de manière un peu insensée. Il est empereur du Vietnam, empereur d'Annam. Il a décidé de soutenir les Japonais alors que les Japonais ont déjà perdu la guerre, ce qui n'est peut-être pas politiquement très mature et très habile.
Je me permets de vous arrêter. Vous avez cité l'Annam, c'est l'ancien nom en fait du Vietnam.
Alors il faut savoir effectivement que le Vietnam, c'est, en partant du nord vers le sud, le Tonkin, l'Annam, où résidait Bao Dai, et la Cochinchine. Nous n'avons pas traité exactement ces trois territoires de la même façon. Le statut de la Cochinchine est beaucoup plus près de celui d'un département, alors que celui du Tonkin ressemble plus à un protectorat. Et là-dessus, effectivement, Bao Dai règne, mais met un peu sa sauce piquante et complique les données du problème. Ho Chi Minh déclare son indépendance, Bao Dai oublie son engagement avec les Japonais et se rallie à Ho Chi Minh. Et puis après, il fera le mouvement inverse, il reviendra vers les Français. Mais il y a une indépendance que les Français ne combattent pas et ne rejettent pas. On engage simplement, dès 1945-46, des négociations sur l'évolution vers l'indépendance. Là commence une série extraordinaire de malentendus. Nous allons naviguer dans le malentendu de bout en bout. Une série de malentendus. Ho Chi Minh est un communiste. Il est un chef nationaliste et ce n'est sans doute pas le plus dur des chefs nationalistes ou communistes. Il prend des contacts avec la France, il accepte des négociations, il est même question qu'il vienne et il viendra pour des négociations à Fontainebleau.
Vous montrez auprès de Salan dans l'avion.
Accompagné du général Salan qui est un fin connaisseur de l'Indochine. Mais les choses ont une autre base. Le général de Gaulle, encore au pouvoir, avait décidé qu'il fallait restaurer l'autorité de la France avant toute chose, c'est-à-dire avant d'aller vers une indépendance qui lui semblait, je pense, plus ou moins inéluctable. De Gaulle a parfois une certaine manière de compliquer aussi les données simples. Il envoie donc un chef militaire, le général Leclerc, il le coiffe d'un chef politique, l'amiral Thierry d'Argentlieu. Or, curieusement, les deux hommes ont déjà eu à travailler ensemble, ils ne s'entendent absolument pas. Leclerc voit très vite qu'on ne reviendra jamais au statut précédent et qu'il faut partir lentement mais sûrement vers l'indépendance. Thierry d'Argentlieu, lui, ne voit qu'une chose, rétablir un protectorat et une colonie française. Alors que Ho Chi Minh prend l'avion avec Salan pour Fontainebleau, Thierry d'Argentlieu a une idée géniale, il décrète la création d'un gouvernement non autonomiste et non nationaliste de la Cochinchine. Ho Chi Minh la prend dans l'avion en volant vers Paris et les adjoints de Ho Chi Minh, qui sont certainement plus durs que lui à l'époque, déclenchent les hostilités, la guerre part sur ce malentendu.
Oui, vous dites que les adjoints de Ho Chi Minh, au fond, n'ont pas besoin de lui pour lancer la guerre révolutionnaire.
Je vais plus loin, je pense que s'il avait été là, on aurait encore trouvé le moyen de négocier et de gagner du temps. Mais il n'est pas là et ses adjoints, résolument, partent à l'offensive.
Donc, la déclaration d'indépendance tient en quelque sorte à braver l'autorité française et c'est une autorité française au fond qui reste faible. Nous sommes, vous le disiez tout à l'heure, en pleine reconstruction, c'est la naissance de la 4e République.
La naissance de la 4e République qui est naturellement fragile et qui le sera toujours. C'est la Cochinchine où les choses se passent beaucoup mieux qu'au Tonkin. Ce sont effectivement ces divergences qui vont tout compliquer et qui vont engendrer les premiers conflits lorsque Leclerc décidera qu'il faut quand même reprendre pied, malgré tout, au Tonkin, après d'ailleurs des accords avec le Viet Minh. Là, il faut peut-être ouvrir une petite parenthèse. Je me souviens avoir parlé de la chose avec Pierre Messmer, qui m'a fait remarquer que dans les accords, il y avait dans les textes français « indépendance », mais que le mot « indépendance » n'apparaissait pas dans la traduction vietnamienne. Donc, encore une ambiguïté ajoutée au dossier.
Alors, c'est ce qui ressort vraiment de votre livre, c'est cette constante ambiguïté, ce constant malentendu. Pourquoi dure-t-il si longtemps, au fond? Parce que on a soif de clarté et l'affaire est d'une complexité.
Je pense que l'instabilité gouvernementale de la 4e y est pour beaucoup. La 4e n'a pas une idée très, très nette de ce qu'elle veut pour l'Indochine. Le général de Gaulle est parti, les gouvernements se succèdent. Un premier gouvernement tente d'engager Leclerc à repartir. Demande à Leclerc de repartir en Indochine. Il demande l'accord de De Gaulle, qui lui refuse. Quelques mois plus tard, Ramadier, de nouveau président du Conseil, redemande à Leclerc de repartir en Indochine. Il redemande à De Gaulle, qui refuse. On a donc, si vous voulez, une série de choses qui ne se passent jamais comme elles devraient se passer. Alors, c'est le problème de la 4e République, avec un gouvernement qui tenait un ou deux ans. Que pouvait-on faire réellement? C'est une guerre lointaine, c'est une guerre qui coûte cher, c'est une guerre qui n'est pas populaire. On a d'autres choses à faire, on a toute la France à reconstruire, alors on va se lancer dans un autre conflit. On ne s'y lance pas, mais on tombe dedans profondément.
Un jour dans l'histoire reçoit Pierre Pélissier, auteur d'une monographie sur Dien Bien Phu, aux éditions Perrin. Alors, vous l'expliquez là aussi dans votre livre, la France cherche et cherchera toujours une solution, une issue politique. Le 21 septembre 1945, elle crée l'Union française. C'est une manière, un miroir du Commonwealth anglais.
Oui, c'est une pâle copie du Commonwealth, mais je ne sais pas comment ils vont s'y prendre en détail, parce que finalement, lorsqu'on fera le compte, on s'apercevra qu'un seul pays a adhéré à l'Union française. C'est le Laos. Le Vietnam ne rentrera jamais dans l'Union française et le Cambodge encore moins. Il faut quand même dire que nos trois alliés là-bas sont des cas également. Le Laos est un petit pays très travaillé par le communisme. C'est quand même un des parents du roi qui mène les troupes communistes et qui tente de prendre le pouvoir. Mais le Laos sera toujours un allié fidèle. Pas un allié solide parce qu'il n'a pas beaucoup d'aide à nous apporter, pas beaucoup de troupes à nous donner, mais un allié très fidèle. Le Cambodge, c'est affolant. L'empereur du Cambodge, un monsieur sur lequel on ne peut absolument pas compter, qui passe son temps à faire du chantage, qui va à Washington en disant qu'il ne veut plus retourner au Cambodge tant que les Français y seront. À un moment, Auriol pose la question d'ailleurs à ses ministres, mais qu'est-ce que l'on fait au Cambodge? Est-ce qu'on ne va pas laisser tomber ce monsieur qui est une sorte de pantin qui cède à ses fantasmes? Quant à Bao Dai, c'est encore pire. Lui a une idée de l'État différente. Il est l'empereur, il entend l'être, il entend gouverner. Il veut même commander les troupes, toutes les troupes, y compris les troupes françaises. L'inconvénient, c'est qu'il y 6 mois par an à Cannes, et c'est pas très pratique pour commander.
Alors, vous dites qu'il s'agit d'une guerre révolutionnaire dont l'enjeu est autant idéologique que territorial. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'ordre de préséance? N'est-ce pas d'abord territorial, puis ensuite idéologique?
Je ne sais pas si on peut mettre l'un devant l'autre, je crois que c'est l'un avec l'autre, c'est l'idéologie, c'est le communisme, il faut faire la conquête des territoires, et pour conquérir les territoires, il faut conquérir les hommes et les âmes. Donc tout ça est imbriqué. C'est vrai que je pense que les hommes sont les premières victimes de l'idéologie marxiste. On engage les paysans à travailler sur le terrain, ils deviennent coulis, toutes les familles doivent livrer les enfants, sauf si elles ont un fils déjà enrôlé. Donc il y a une conquête dure de la population pour ensuite avoir des troupes et des coulis, des esclaves, soyons simples sur le terme, la traduction du mot coulis, qui vont servir Ho Chi Minh et Giap quand il passera à l'offensive militaire. Je pense que c'est la conquête des âmes qui ira très loin pour la conquête du territoire. Je pense qu'on verra à la fin, quand Dien Bien Phu chutera, que l'on avait une armée du camp libéral qui respectait les hommes, même si elle les envoyait se faire tuer, face à un adversaire qui n'avait pas un grand respect de la vie de ses propres hommes. À la fin, on était quand même à 1 contre 10, avec des relèves permanentes côté Viet Minh et aucune relève du côté français.
Alors, près du Vietnam, en tous les cas pas très loin, il y a la Corée du Nord et il y a les Américains. Cette ce conflit va avoir une influence sur Dien Bien Phu.
Oui, une double influence, une influence sur les Américains. Je crois que les Américains, qui nous ont longtemps pris pour des mauvais colonialistes voulant reprendre nos territoires, vont comprendre que l'on mène finalement la même guerre qu'eux sur un autre terrain, mais que l'on se bat aussi contre l'expansion communiste dans l'Asie du Sud-Est. C'est ce qui changera l'attitude américaine, qui prendront d'autres défauts par la suite, mais là, je pense qu'il y a un éclairage sur lequel le général Delattre joue un rôle très important. Je crois que c'est Delattre qui a fait comprendre aux Américains que nous n'étions plus les vilains colonialistes qu'ils croyaient. L'autre aspect, c'est l'aspect chinois. Les Chinois sont engagés en Corée, très fort, et lorsque l'armistice intervient, quelques temps avant que ça déclenche l'affaire de Dien Bien Phu, on se demande ce que vont faire les Chinois. Il est évident qu'ils ont du matériel à récupérer et à transférer au Viet Minh, qu'ils ont des instructeurs disponibles et des hommes disponibles. Mais ils en feront moins qu'on ne pouvait le craindre, car ils avoueront plus tard qu'ils étaient totalement exsangues et qu'ils ne pouvaient pas continuer une deuxième guerre. Cela dit, il y a quand même, à l'époque de Dien Bien Phu, côté chinois, 5 camps d'instruction dans lesquels, tenez-vous bien, on prépare même des pilotes de chars et des pilotes d'avions pour le Viet Minh.
Alors, je reçois Pierre Pélissier, auteur d'une monographie, Dien Bien Phu, parue aux éditions Perrin. Nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, Pierre Pélissier, après une première pause.
Vous écoutez Canal Académie. Vous écoutez Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Pierre Pélissier, auteur d'un livre, Dien Bien Phu, paru aux éditions Perrin. Et nous évoquons non pas la bataille, mais les années précédant la bataille, les origines de cette bataille. Alors, quelle est la position des Vietnamiens, de la population vietnamienne, par rapport aux Français et aussi, bien évidemment, par rapport aux Viet Minh ?
Elle est très ambiguë. Les Vietnamiens sont des gens naturellement calmes, paisibles, qui préféreraient certainement vivre en paix, retrouver le Vietnam d'avant la guerre de 40-45 et de poursuivre leur vie très agricole, très, très calme, très paisible. Seulement, il y a cette guerre qu'ils n'ont pas forcément voulu et qui a fait pratiquement toutes les familles. Du côté français, nous récupérons des jeunes gens qui ont envie de se dégager de l'emprise communiste. Et plus tard, on s'apercevra, à Dien Bien Phu précisément, qu'à peu près le tiers, et peut-être même plus du tiers des combattants, est composé de Vietnamiens qui se sont engagés dans l'armée française. Ne jamais oublier, Dien Bien Phu, un tiers de soldats jaunes, un bataillon vietnamien et à peu près le tiers des unités jaunies, comme on disait à l'époque. Et puis il y a eu des appels. Moi, je voudrais vous citer ce que disait le général Delattre en juillet 51 à la distribution des prix au lycée Chasse-Tout-Loba de Saïgon. Soyez des hommes, disait-il aux élèves, c'est-à-dire si vous êtes communiste, rejoignez le Viet Minh, il y a là-bas des hommes qui se battent bien pour une mauvaise cause. Mais si vous êtes patriote, combattez pour votre patrie, car cette guerre est la vôtre. Je crois que tout est dit. On ne se bat pas pour le maintien de la France et de la puissance française et de la colonie française. On se bat pour qu'ils ne tombent pas sous le joug communiste. C'est ce que va dire aussi Delattre aux Américains qui vont évoluer à partir de ce moment-là. L'autre partie, il y a des fanatiques communistes, il y a des gens qui ne veulent plus de supporter la France. Il y a une élite tonkinoise qui fournit notamment pratiquement tous les étudiants en médecine du Tonkin, de Hanoï, vont se retrouver dans les rangs Viet Minh. Et puis, il y a ce que j'ai appelé tout à l'heure les esclaves, les coolies enrôlés de force, envoyés au combat malgré eux, et qui seront le gros des troupes. Le recrutement de force, ça existait chez nous sous Louis XIV, ça existait chez eux sous Ho Chi Minh. Alors disons qu'il y a des fanatiques communistes, qu'il y a des gens qui voulaient vivre en paix, mais qui sont beaucoup moins fanatiques, et il y a une minorité qui s'est engagée à nos côtés. Et c'est pas banal qui les a poussés.
Alors vous venez de citer Delattre. Delattre est haut-commissaire en Indochine de 1950 à 1952. Quelle va être son action pendant ces deux années ?
Il a la chance et l'avantage d'avoir un double képi. Il est chef militaire et il est chef civil, c'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs. Il va donc pouvoir révoquer les gens, transformer les attitudes, bousculer Baodag, bousculer les Vietnamiens. Il est le maître à bord. Et à Paris, il est suffisamment respecté pour que personne ne songe à contrarier les désirs de celui qu'on appellera très vite le roi Jean.
Il a une autorité morale, au fond.
Il a une énorme autorité morale, celle qu'avait Lautler. Lautler est mort entre-temps dans un accident d'avion. Delattre, c'est le dernier des grands héros de la guerre de 39-45. Il y a Juin, mais Juin est plus vieux et Juin ne veut pas de commandement d'Indochine. Donc c'est Delattre qui va se jeter sur l'Indochine. Son arrivée va être tonnerre tombant sur Hanoï, il va renvoyer des officiers en France simplement parce que la tenue n'était pas bonne, qu'il y a une tache sur leur jaquette, c'est une sorte de bouleversement complet. Mais en même temps, il va dans tous les postes où il peut aller pour dire aux gens, vous êtes lieutenant, vous êtes capitaine, c'est votre guerre, je suis là pour vous, les lieutenants et les capitaines. Les colonels souffrent un peu, les généraux encore plus. Il n'empêche qu'il aligne quelques très beaux succès, il gagne des batailles et surtout, il est sur le terrain. Quand il y a un très gros accrochage avec plusieurs compagnies, plusieurs groupes mobiles, on voit arriver l'avion de Delattre et on voit Delattre perché sur le capot de sa jeep, redonnant de l'élan à ses troupes. C'est un chef, c'est un vrai.
Est-ce qu'il a été le plus réaliste au fond de ces années ?
Alors là, vous abordez le vrai problème. Que se serait-il passé s'il n'était pas mort de maladie en 1953-54 ? Est-ce qu'il aurait pu tenir ce rythme-là ? La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il n'aurait pas eu davantage de renforts, c'est qu'il n'aurait pas obtenu les moyens matériels de continuer son travail. Il se serait usé à la tâche. Je ne sais pas s'il aurait pu tenir beaucoup plus longtemps que les autres.
Alors il est remplacé par Salan, qui lui aussi va avoir plusieurs victoires militaires.
Oui, Salan est un personnage qui sera par la suite critiqué, puis qui aura le destin que l'on connaît, à savoir finir en prison parce qu'on se rebelle contre le pouvoir. Mais Salan avait une passion de l'Indochine. Salan a un fils indochinois. Salan avait une famille indochinoise avant d'avoir sa famille européenne. Il connaissait le pays, il connaissait les dialectes. C'était un homme qui était issu des milieux du renseignement également. Il avait tout pour suivre Delattre. Une seule différence, c'est que Delattre avait la double casquette, je vous l'ai dit, pouvoir politique et pouvoir militaire, et Salan ne sera jamais que intérimaire. Ce qui change terriblement les choses, ce qui vous empêche de prendre des grandes décisions, de réclamer des choses aux politiques. Il n'était qu'intérimaire. Il espérait un jour avoir la succession de Delattre, et il arrive Navarre.
Alors, restons un peu sur ce personnage, Salan. Son action militaire, elle va se porter évidemment contre le Viet Minh. Il va remporter de francs succès.
Il remporte de francs succès et il réussit quelques tours de force. En principe, on résume simplement la situation au Tonkin.
Le Tonkin, donc, qui est au
la
nord.
La partie nord, qui est entre le Laos, la Chine et la baie d'Along. On disait simplement, le jour, les Français contrôlent les environs d'Hanoï, et la nuit, le Viet Minh contrôle tout. C'est un peu ça. Il va réussir quand même, Salan, quelques coups assez fabuleux. Il va réussir, avec Gilles, l'implantation d'un camp retranché qui aura aussi de l'influence, qui est le camp de Nassan. Il réussit à jeter dans les patte des Viettes, cette base, on appelle ça un hérisson en termes militaires. Il va construire ce camp avec une piste d'aviation, une vallée beaucoup plus petite que Demian Fou, ce qui leur permettra de tenir certaines hauteurs. Et là, il va s'accrocher avec Gap, et qui Gap va se casser les dents sur le poste de Nassan. Il y aura d'autres défaites. Bon, il y a eu entre-temps des défaites françaises colossales. Il y a eu la déroute de Caoban, le RC4. Mais dans l'ensemble, on tient, et on tient bien. Et puis, on ne sait pas trop où on veut aller, en fait.
Alors, transportons-nous en France, si vous le voulez bien. Quelle est, à l'époque, la position du gouvernement français ? Est-ce que l'Indochine est une priorité ? Est-ce que c'est une question secondaire ?
C'est une question manifestement secondaire pour le gouvernement et pour les conseillers militaires du gouvernement. La grande hantise à l'époque, c'est le bloc de l'Est. C'est que va faire Moscou, que va faire l'Union soviétique et ses satellites ? Quand vont-ils nous envahir ? La question ainsi posée, il est évident que tout le monde pense à défendre l'Europe de l'Ouest contre le bloc de l'Est. C'est l'époque où on discute de l'avenir de la CED, la Communauté européenne de défense. C'est une idée qui est en grande partie française et en grande partie de René Pleven. C'est une idée que les Américains ont tout de suite adoptée. En oubliant un petit détail, c'est que quand même les Allemands dans la CED, les Français allaient forcément renâcler à un moment ou un autre. Donc, on ne s'entend pas sur le rôle éventuel des Allemands, on a besoin d'eux, on a besoin de leur territoire, mais on ne va quand même pas mettre les Allemands en première ligne pour nous défendre contre les Russes. Donc, priorité absolue, la défense de l'Europe de l'Ouest contre l'Est. Le maréchal Juin joue un très grand rôle dans cette affaire. Il garde les meilleurs pour l'Est, pour la défense contre l'Est. Il n'envoie personne en Indochine, il refuse les gens partant en Indochine. Il a son adjoint, Navarre, à qui il va dire « Pour votre avancement, ça serait bon d'aller un peu en Indochine ». Mais il n'y croit pas, Juin. Et quand il rend des visites en Indochine, tout le monde est déçu. Il ne reparle que de la défense de l'Europe de l'Ouest. Et quant au gouvernement, alors là, c'est... Il y a tellement de gouvernements en si peu de temps que personne n'a le temps de définir une politique cohérente, si ce n'est une idée qui apparaît.
Alors justement, nous sommes en 1953. René Meyer est président du Conseil et il souhaite, lui, une internationalisation du conflit.
Oui, alors là, on rentre dans d'autres discussions. Les Américains sont sortis de Corée, ils n'ont pas tellement envie de repartir. Pour l'instant, après, ça changera en Indochine. Les militaires français ne veulent pas non plus d'une internationalisation. Ils ont envie de gagner leur guerre, ils croient encore pouvoir gagner leur guerre. Il y a tous les milieux gaullistes qui sont influents au Parlement à l'époque, qui ne veulent pas davantage de l'internationalisation. Donc, on achoppe sur ce problème. Et Maillère, lui, évolue aussi. Finalement, Maillère, lorsqu'il va trouver son commandant en chef, va lui dire d'aller préparer un désengagement. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire en termes militaires, mais préparer un désengagement, c'est quand même se préparer à se retirer. Et la consigne est tellement floue que Navarre partira avec ce conseil, préparer un désengagement. Maillère ne tient pas plus longtemps que les autres.
On pense, je reviens sur ce que vous disiez sur la Corée, on croit que la sortie américaine de la Corée va permettre de pacifier en fait l'Indochine, qui aura une sorte d'influence.
Oui, mais n'oubliez pas qu'il y a des campagnes électorales en Amérique tous les 4 ans, et que Eisenhower n'a pas envie de partir avec le handicap d'une guerre supplémentaire. Ça se retrouve de temps en temps, à peu près tous les 4 ans, le président a des ennuis avec ce qui se passe à l'extérieur. Vous savez pourquoi Maillère a choisi Navarre ? C'est aussi une aventure assez extraordinaire. Pourquoi Navarre ? Simplement parce que Maillère avait connu Navarre pendant les premiers mois de l'occupation française en Allemagne. Après, Maillère est devenu député-maire de Constantine et la division militaire de Constantine était commandée par Navarre. C'est la seule raison, il n'y en a pas d'autre.
Alors, avant de venir sur ce personnage Navarre, Maillère envoie à Salan un émissaire, le général Le Cher, qui reste une quinzaine de jours au Vietnam. Et Le Cher remet un rapport que vous avez pu lire, qui n'existe, vous dites, qu'en 7 exemplaires. Et on est frappé par la lucidité de ce texte.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de Salan derrière. Salan, qui connaissait l'Indochine comme personne ne la connaîtra jamais. Salan avait longuement vu Le Cher. Ils s'étaient beaucoup promenés ensemble. Ils avaient parlé d'une certaine vallée, qui s'appelait Dien Bien Phu. Ils avaient parlé d'un tas de choses. Et il était évident pour eux qu'on ne gagnerait pas la guerre, qu'il fallait trouver une autre solution, le désengagement, et par une autre manière sans doute. Oui, effectivement, Le Cher est un de ceux. Et certains ont vu très clair. Et curieusement, on a même vu un président du Conseil voir très clair. Mais on en parlera peut-être après, c'était pendant Dien Bien Phu.
Alors, vous avez, Pierre Pélissier, une expression tranchante, si je puis dire. Vous dites, militairement parlant, certaines données de l'affaire indochinoise sont extrêmement simples quand il s'agit de poser les problèmes. Elles deviennent, ces données, insolubles lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. On a un problème dans l'action.
On a un problème qui tient au fait que les politiques ne savent pas ce qu'ils veulent. Et le problème dans l'action, c'est aussi le problème des moyens qu'on leur refuse. Comment voulez-vous faire une guerre et en plus la gagner quand vous ne savez pas où vous allez, pourquoi vous vous battez et avec quels moyens vous allez tenir le coup? C'est effroyable, en fait. Et c'est là, je pense, que la responsabilité des politiques est énorme. Et par contre-coup, celle des militaires qui n'ont pas osé dire aux politiques « arrêtez ». Arrêtez de nous balader, de nous envoyer au combat sans avoir les moyens et sans savoir pourquoi.
Alors donc, Navarre est envoyé. Qui est ce chef militaire, outre l'anecdote que vous venez de donner ?
Navarre est un homme qui a deux ou trois inconvénients majeurs qui auraient dû empêcher sa nomination en Indochine. La première, il n'a jamais exercé de grand commandement. C'est un général qui arrive en Indochine, où il va commander l'aviation, la marine, l'armée de terre, sur un territoire immense, et qui n'a jamais exercé de commandement à ce niveau-là. Il était l'adjoint de Juin au Centre-Europe, c'est pas du tout la même chose. C'est un garçon qui ne connaît absolument pas l'Indochine. Vous me direz que ça peut apporter un regard neuf, mais c'est peut-être plus le temps, on a plus le temps de regarder les choses et d'essayer de comprendre différemment. Handicap majeur.
Vous le citez, il dit « Rien dans ma carrière ne me désignait pour commander en Indochine ».
Oui,
c'est affreux quand on
dit ça. Mais il n'a pas dit non. C'est ça qui devient aussi affreux, c'est qu'il n'a pas dit non. Et la troisième caractéristique de Navarre, c'est un garçon qui a fait la plus large partie de sa carrière dans les services de renseignement, qui a vraiment été un des as du renseignement français et qui va tomber dans un travers invraisemblable. Il ne croira jamais les informations que lui apporteront ses services de renseignement qui fonctionneront à la merveille du premier au dernier jour. Il ne les croira jamais. Voilà en gros qui est Navarre, si vous voulez. Un garçon qui arrive seul en plus. Il prend l'avion avec son aide de camp, avec le capitaine Pouget. Il n'a personne, il n'a pas d'état-major, il n'y a pas une cour. En général, dans l'armée, on dit qu'il y a l'écurie de Lattre, il y a l'écurie Juin. Il n'y avait pas d'écurie Navarre, il n'avait personne. Il arrive à Hanoï et il fait le tour, littéralement, des popotes pour trouver ses officiers adjoints, parce que les officiers adjoints sont tous en fin de séjour et vont tous rentrer. Salan aurait aimé rester, mais à d'autres conditions. Il est en fin de séjour, il est épuisé, il rentre. Il y en a d'autres, un de ses camarades de promotion, dont le nom ne revient pas immédiatement, un de ses camarades de promotion qui lui dit « Qu'est-ce que tu viens foutre là ? Mais tu vas t'enliser. Moi, en tout cas, je ne reste pas avec toi, je m'en vais. » Il ne trouve personne. Alors, il y a des gens qui lui disent « Prenez donc le petit général Gambiez, prenez donc Baudet. » Alors, il prend Gambiez, il prend Baudet, mais il ne les connaît pas. Il ne connaît que son aide de cas, Jean Pouget, qui est un type d'ailleurs formidable.
Je reçois Pierre Pélissier et nous évoquons les quelques mois précédents d'Yen Bien Phu. Nous nous retrouvons après une seconde pause.
Vous écoutez Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez.
Vous écoutez Canal Académie.
Je reçois Pierre Pélissier, auteur d'une monographie intitulée « Dien Bien Phu, 20 novembre 1953, 7 mai 1954 », parue aux éditions Perrin. Et nous évoquons, ces quelques mois précédents, la fameuse bataille dont nous fêtons, dont nous commémorons plutôt, les 50 ans. Alors, Navarre est envoyé en Indochine, il part pour Saïgon au mois de mai 1953. Quelle va être l'analyse de la situation ?
Il fait une analyse étrange parce que ce que l'on lui dit à Saïgon ne recoupe pas forcément ce qu'on lui dit à Hanoï. Et comme je vous l'ai dit, il a tendance à minimiser les renseignements du deuxième bureau. Il va donc préparer en quelques mois un plan, qu'on appellera le plan Navarre, qui est une chose assez compliquée. On ne voit pas très bien ce qu'il veut faire. D'ailleurs, comme le gouvernement ne le sait pas non plus, il y a un problème sur la défense du Laos. Faut-il ou non défendre le Laos ? Il est partisan, lui, de défendre ce bon allié. Faut-il maintenir la présence française et la fortifier en Cochinchine? Ça serait pas mal non plus. Faut-il essayer de s'implanter en Annam? Pourquoi pas? Et finalement, il décide qu'il est urgent d'attendre. Or, il ne va pas attendre. Son plan prévoit qu'il va consacrer l'année 54 à reconstituer un corps de bataille, à s'arranger pour que ses troupes soient aussi nombreuses et aussi fortes que celles de Gap. Or, nul ne sait pourquoi, 54, c'est un an après sa grosse offensive, celle qu'il lance sur Dien Bien Phu et qu'il va doubler par une autre. Donc il s'est passé quelque chose dans la tête de Navarre que je ne peux pas expliquer. Rien n'apparaît très clair. Il est venu à Paris, il a dit « je lancerai mon offensive à la fin 54 ». Il va la lancer en novembre 53. « J'ai besoin de renforts », il ne les aura jamais, mais ça ne change pas ses plans. Il y a quelque chose d'étrange. Il s'est, je pense, plus ou moins laissé intoxiqué, ou il s'est intoxiqué tout seul, si encore plus grave, parce que toute l'équipe qui est au Tonkin, avec le général Conny, avec lequel il d'ailleurs ne va pas s'entendre, toute l'équipe Conny va ne cesser de l'avertir des erreurs qu'il s'apprête à commettre ou qu'il commet. Et il y a une sorte d'entêtement, il n'y a guère que Jean Pouget pour dire « Non, non, mon patron ne s'est pas trompé, c'est les événements qui... » Jean Pouget est très gentil pour son patron. Mais c'est vrai qu'on ne comprend pas très bien, quand on lit en détail le plan Navarre, on s'aperçoit qu'il n'a pas suivi son propre plan. En tout cas, il n'avait pas les moyens même de le suivre.
En mai-juin 53, nous oscillons toujours, j'allais dire, entre l'Indochine et la France, mais nous sommes obligés, dans les mois précédents, la fameuse bataille. La France est en crise, elle cherche un gouvernement. On met 5 semaines à trouver un gouvernement.
Oui, mais ne soyez pas choqués, c'était presque la tradition. À part quelques événements où ça s'est réglé en 15 jours, 3 semaines, c'était plutôt 5 semaines que 3 jours. René Maillère est tombé, on a cherché effectivement. Alors il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils avaient peut-être un peu trop d'idées. Je pense à Paul Reynaud ou à Bidault. Il y a des gens qui ont échoué parce qu'ils n'avaient pas assez d'idées. Et puis il est sorti du lot un peu... par facilité, Joseph Laniel. Joseph Laniel était un très bon serviteur de la 3e. Il avait bien servi la 4e. Il avait été un résistant héroïque. On va lui donner la présidence du Conseil. Pourquoi pas à son tour. Ce qui est drôle, c'est que Joseph Laniel va avoir d'autres idées en tête. Puisqu'on lui donne la présidence du Conseil en mai 53 et que les présidentielles sont pour décembre 53, pourquoi pas faire un petit tour d'essai si ça marche après tout? J'irai peut-être à l'Élysée, a-t-il pensé. Mais ça me semble tout à fait évident.
Alors, sur l'affaire indochinoise, vous écrivez qu'en haut de l'État, président du Conseil, ministre des États associés, donc qui était ce ministre qui gérait notamment la question indochinoise, et enfin le vice-président du Conseil, avaient chacun un droit de regard, mais que leur vue, au fond, n'était ni identique ni simultanée. Et que là encore, ça va participer, j'allais dire, d'une confusion et d'une absence de décision.
Oui, bien sûr. Vous avez donc Joseph Laniel qui doit tout régenter, c'est le chef d'orchestre. Paul Reynaud. Pourquoi Paul Reynaud, vice-président du Conseil, chargé du Vietnam? On se le demande. Bon, il a des connaissances, disons, économiques et financières. Il y a avec eux Bidault aux affaires étrangères, qui a son mot à dire. Pleven, chef des armées, a son mot à dire. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a encore? On a perdu, je crois, à ce moment-là... je regarde très brièvement... Non, ils sont 5 à pouvoir, tous les 5, intervenir sous tous les dossiers. Ça va entraîner d'ailleurs des conséquences dramatiques dans les comités de défense. On s'apercevra qu'il y a des fuites insensées.
Est-ce que, dès lors, la question indochinoise, non seulement est une question ambiguë, mais au fond est une question ingérée?
C'est une question ambiguë depuis le départ et totalement ingérée depuis 2 gouvernements. Je pense que René Maillère n'a pas géré davantage que Laniel. C'est ingéré. Alors, ça veut dire qu'on lance des ballons d'essai dans tous les sens, des bouteilles à la mer. Il y a cet appel à Ho Chi Minh. On ne sait pas très bien ce qu'on veut lui demander, mais on lance des appels. On passe par Moscou, d'ailleurs. On envoie Alain Savary, le socialiste, à Moscou pour essayer d'avoir des contacts. Ho Chi Minh, qui est au courant, il n'est pas tout à fait coupé des réalités, donne une très longue interview à un journal suédois, qui est une sorte d'appel aux Français. Mais comme ça se passe par les voies de presse, le gouvernement français ne répond pas. On manque toutes les occasions de se rencontrer et de discuter. Je pense qu'à ce moment-là, d'ailleurs, Ho Chi Minh se demande s'il arrivera un jour à vaincre les Français. Et puis, il y aura ensuite les événements vont s'accélérer, ça sera moins bon par la suite. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de ligne directrice du tout.
Alors Navarre, lui, a un plan. Il revient en France et il le présente. Quelle est la nature de ce plan ?
Alors, ce plan, c'est « je vais défendre le Laos ». C'est curieux parce que tout le monde dira après, on lui a dit non. Il dira « on ne m'a jamais dit non ». Et effectivement, on ne lui a jamais dit non. On n'a jamais dit oui non plus. « Je vais reconstituer, je vous l'ai dit, mon corps de bataille pour la fin 54. » Et puis, je serai en position de force pour battre le Vietnam, tout au moins lui imposer des défaites qui seront importantes quand on voudra négocier aux environs de l'année 55. Ce plan, il y en a plusieurs versions. Je donne en annexe celle que Jean Pouget a conservée. C'est une version crayon, une version presque dactylographique qui montre qu'effectivement, Navarre a des idées, mais... elles ne seront jamais exécutées. Alors le problème, c'est que ce conseil de défense du mois de juillet 1953, Vincent Auriol a demandé à ce que tout le monde mette les mains dans les poches et ne prenne aucune note. Pas de crayon dans la salle. Or, le plan Navarre est en grande partie la semaine suivante dans un journal qui à l'époque s'appelait France Observateur. Roger Stéphane a pratiquement eu les minutes de cet entretien. C'est quand même dramatique parce que Ho Chi Minh les a 8 jours après.
Oui, alors c'est un des éléments majeurs de votre livre, c'est que vous montrez qu'au fond, il n'y a aucun secret. Et même dans la cuvette de Dien Bien Phu, il est impossible de tenir un secret.
Je pense que la tradition militaire, c'est que dans un camp comme Dien Bien Phu, il ne pouvait pas y avoir de secret. Tout le monde vit l'un sur l'autre, tout le monde vit coupé du monde, avec tous les tuyaux qui peuvent courir, les vrais comme les faux, et beaucoup de faux d'ailleurs. Non, le secret ne tiendra jamais. Il y aura toujours une pelure, un double qui partiront où il ne faut pas. Je pense qu'on sait à peu près tout à cause de ces fuites insensées et de cette paperasserie qui encombre des dizaines de cartons aux archives militaires de Vincennes. On retrouve des choses totalement folles dans ces archives. Tout le monde écrivait. Il y a des notes sur tout. Il y a des notes pour débiner le voisin, des notes pour dire ce qu'il fallait faire et qu'on ne fait pas, des notes pour dire ce qu'il ne faut pas faire et qu'on va faire. Mais c'est hallucinant.
Alors, il y a un fait militaire qui est important, c'est le retrait des forces françaises de Nassan que vous évoquiez tout à l'heure. Là, c'est une victoire. Et au fond, un retrait des forces françaises dans ce cas-là est considéré comme une victoire parce que c'est une position de repli, tout simplement, à la suite d'une technique qui est la technique du hérisson.
C'est un vrai succès et c'est en cela que le succès est gênant. Ça a l'air étrange, mon histoire, mais on est dans un camp retranché qui est plus petit que la vallée des Bien Phu avec une piste d'aviation. On va réussir à soulever tout le monde, y compris les supplétifs et les familles. C'est-à-dire que lorsqu'ils prendront le camp, le Viet Minh ne trouvera que des dépôts de munitions sabotés et du riz enduit de pétrole. Alors pourquoi ? Pourquoi ce succès ? Alors, là, il y a un petit problème. Le succès tient un détail totalement stupide. La radio Viet Minh tombe en panne. Les observateurs du Viet Minh qui sont à vue du camp constatent que la France envoie des renforts, disons le lundi. Et c'est vrai, on envoie des renforts le lundi, mais ce n'est qu'un leurre. On envoie des gens qui ne sont pas là pour rester, qui repartent le lendemain. Le Viet Minh croit que nous envoyons des renforts. Les services de renseignement Viet transmettent les messages à Giap et la radio tombe en panne. La radio tombe en panne 3 jours et les télégrammes des agents d'enseignement sont de plus en plus précis. Les Français partent, les Français sont en train de tout enlever. La radio ne marche pas. Et quand c'est terminé, quand la radio fonctionne, l'opérateur Viet prend la pile de papier, la retourne et redémarre dans l'ordre logique où ils lui sont arrivés. Et le dernier qui transmet, c'est les Français sont partis, ils ont réussi. Voilà. Cela dit, on a quand même fait une chose énorme. On a, avec ce pont aérien, complètement sauvé la base de Nassan. Ce qui va faire croire, et c'est là que les choses s'aggravent, ce qui va faire croire que l'on peut sauver un camp retranché.
Alors venons-en justement à Dien Bien Phu. L'envoi des troupes sur Dien Bien Phu s'appelle l'opération Castor. Pourquoi d'abord cette attirance de Navarre ? Et d'abord, au fond, que signifie Dien Bien Phu ?
Dien Bien Phu est une vallée qui n'est pas sans importance, qui a toujours joué un rôle dans l'histoire du Tonkin. Il y a là, au fond de cette vallée, dont je vous donne à peu près la taille, lorsque le le point d'appui français le plus au nord, qui est Gabriel, sera implanté, il sera pratiquement à la place de la Bastille à Paris. Et le plus au sud, Isabelle, sera à la Défense, au cœur du quartier d'affaires de la Défense. Ça vous met une douzaine de kilomètres entre le nord et le sud. Ce n'est pas une vallée.
Nous ne sommes pas dans un petit camp,
non.
Nous sommes véritablement dans un lieu immense.
Dans un lieu immense, difficile. Il y a, au milieu de cette vallée, une piste d'aviation qui date de bien avant-guerre. C'est une piste d'aviation de secours. À l'époque, on avait toujours peur que les avions arrivant d'Europe vers les Indes aient besoin d'un terrain de secours. Et cette piste était faite pour récupérer les avions de ligne en difficulté. Elle date de l'avant-guerre. Pendant la guerre, les Japonais l'ont utilisé, nous l'avons retrouvé en 1944, les Viets l'ont repris et l'ont démoli. Alors la vallée de Yuen Yen Phu, c'est une vallée occupée par des petits villages, 4 ou 5 petits villages avec une rivière. Il y a des hauteurs autour, mais les hauteurs ne sont pas dominantes. C'est presque la butte Chaillot par rapport à la Seine. Et derrière le Sacré-Cœur, puis après les choses s'élèvent et sont de toute manière dans la jungle. Et on s'implante là parce que Navarre a l'idée la plus folle qui soit, et tout l'état-major de Cogny va lui dire « arrêtez les bêtises, c'est pas possible ». Il prétend qu'une base comme ça peut empêcher le Viet Minh de marcher sur le Laos. Le Viet Minh, ce sont des guerrieros de brousse, de jungle. La base, ils vont la contourner 3 km au sud ou 3 km au nord. Il ne va pas les tenir en place.
Et Cogny n'est pas le seul. Tout le monde.
Tout le monde. Tous les gens qui sautent. Gilles, qui a créé Nassan et qui est le premier patron de Nien Phu, disent la même chose. Et puis, bon, on se retrouve là. Puis on se retrouve là avec Giap, qui trouve que c'est quand même tentant, cette proie.
Nous sommes le 20 novembre.
Et voilà. Le 20 novembre, les parachutistes français sautent. Ils tombent sur des troupes Viet Minh à l'entraînement. Et commence l'affaire de Nien Phu. 3 mois horribles.
Comment va se passer cette installation ?
L'installation.
Vous citez la réception un peu chaude du Viet Minh. Matériellement, comment cela se passe ?
Assez simplement. Il y a tout de suite, dans les 2 premiers jours, 4 bataillons de parachutistes qui vont dégager la cuvette, mettre les premières zones défensives, s'installer, creuser les premières tranchées. Quand les hommes de Bijard sont là, on creuse des tranchées. Ça, c'est magnifique, c'est immédiatement. Donc, ils organisent leur défense et très vite, on va commencer à faire des explorations autour de la cuvette et s'apercevoir que les eaux ne sont pas parties très très loin. Il y a 2 dates à retenir en décembre. C'est vers le 20 décembre, on décide d'abandonner un autre poste, un autre hérisson qui s'appelait Lai Chau et de refluer sur les Nien Phu pour renforcer la garnison. Le seul inconvénient, c'est qu'ils partent à 3000 de Lai Chau. Ils n'arrivent pas à 200 de Nien Phu. Alors bien sûr, certains sont rentrés discrètement chez eux, ce sont des supplétifs, mais la perte est énorme. Et la Légion et le régiment de choc ne vont pas très loin, ils sont accrochés par le Viet Minh très très près de Nien Phu.
Ça contraste avec la victoire de Nassan.
Totalement, et c'est le signal d'alarme. C'est ce jour-là qu'il fallait comprendre qu'il se passait des choses. La deuxième chose étrange, c'est l'opération Régate. Est-ce qu'on a le droit d'appeler une opération Régate en pleine jungle tonkinoise? Il faut aller faire une liaison pour montrer que le Laos est la porte d'à côté. Alors on va partir à pied au Laos, les gens du Laos vont venir et à mi-chemin on va se dire bonjour, on va se serrer la main devant les photographes de presse et chacun va rentrer chez soi. Seulement la chose se passe beaucoup moins bien que prévu. Le colonel Langlais, qui est d'ailleurs handicapé après un saut en parachute raté, veut rentrer par les fonds de vallée. Le patron du 8e choc, Touré, veut rentrer par les hauteurs. Les deux hommes s'accrochent, s'engueulent. Le capitaine a raison, mais le colonel ne parlera jamais au colonel d'avoir raison. Mais ce jour-là, on sait qu'on ne peut plus sortir de Nien Phu. Nous sommes le jour de Noël. Le jour de Noël, c'est fini. Nien Phu est encerclé. Il n'y a plus de fuite possible.
Je reçois Pierre Pélissier et nous en sommes là aux quelques jours précédant la fameuse bataille de Dien Bien Phu. Nous nous retrouvons dans un instant.
Canal Académie.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie se penche sur la construction européenne, les frontières de l'Europe d'un point de vue historique, l'Europe vue du monde arabo-musulman, l'Europe médiévale, l'Europe et les femmes. Radio Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Radio Canal Académie.
Vous écoutez Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Nous évoquons avec Pierre Pélissier. Pierre Pélissier qui est l'auteur d'une monographie sur Dien Bien Phu, les quelques mois précédant la fameuse bataille. Alors, le général ennemi Gap met l'accent, lui, sur la contradiction française qui, en même temps, veut occuper tout le territoire indochinois tout en regroupant ses forces en un point central. Est-ce qu'au fond, il n'a pas raison ?
Là, vous me posez une véritable colle, car quand je me retrouve face à ce qu'a pu écrire Gap, je suis perplexe. Il a carrément écrit tout et le contraire de tout. Ses bouquins sont sans cesse réécrits. Ceux qui sortent à l'heure actuelle, ses mémoires sont une refonte complète. Il a un tout petit bouquin qui s'appelle « Dien Bien Phu ». Il y a eu 6 ou 7 éditions en langue française, je ne parle pas des autres. Aucune ne ressemble à la précédente. Elles prennent en compte tout ce qui s'est passé au Vietnam à l'époque où il écrivait, tout ce qui s'est passé en compte pendant qu'il le combattait. C'est, je crois, le dernier témoin à aller chercher. Encore que là, il réagisse parfaitement. Il a compris que Navarre voulait la bataille. Il a compris que derrière cette bataille voulue par Navarre, il y avait une autre erreur colossale de Navarre et il fallait lui profiter. Parce que Navarre ne se contente pas de Dien Bien Phu, ça serait trop simple. Il lance une autre opération, à peu près en même temps, qui s'appelle Atlante. Atlante se passe en Annam, au sud de Dien Bien Phu, va lui prendre tout ce qui lui reste de réserve parachutiste et de réserve d'aviation. C'est-à-dire qu'en lançant cette deuxième opération, il se retire à lui-même les moyens qui lui manquaient déjà pour réussir Dien Bien Phu, comme s'il n'avait jamais cru que Dien Bien Phu soit un enjeu réel. Et là, je pense que tout commence à dérailler totalement. Dien Bien Phu n'aura jamais beaucoup de renforts. On laissera la base diminuer, mourir. Atlante ne servira à rien. C'était aussi un très bel échec. Et on va vers la sortie la plus dure possible de la cuvette de Dien Bien Phu.
Je reviens sur Gap, si vous le voulez bien, Pierre Pélissier. Il ne veut pas se précipiter. Il attend. Et Ho Chi Minh, d'ailleurs, lui dit aussi d'attendre. Oui. Pour pouvoir être sûr d'une victoire.
Oui, mais n'oubliez pas qu'il a subi un sérieux échec en Assam. Et ça, dans le monde communiste, on ne peut pas en subir deux. Si Gap ne gagnait pas la bataille à Dien Bien Phu, il serait bon pour la disgrâce. Il y a d'ailleurs un signe qui prouve qu'on en est là, c'est qu'il y a une offensive qui est prévue pour la fin janvier. Tout le monde le sait. Tout le monde l'attend. Et au dernier moment, cette offensive est annulée. On s'est tous demandé pourquoi. Je ne sais pas s'il y a une réponse plus sûre qu'une autre. Il est évident que Gap, en renonçant à cette offensive, a fait une manœuvre qui a entraîné les troupes de Navarre ailleurs. Il a fait sortir les troupes de Navarre, il les a promenées à travers le Tonkin, vers le Laos, et ça a retiré des réserves pour Dien Bien Phu. Il est certain qu'il est revenu très très vite, que Navarre a été complètement pris à contre-pied. Moi, j'ai une autre théorie, c'était le début des négociations de Berlin. Gap attaque Dien Bien Phu, échoue. Très mauvais pour les négociations de Berlin. Gap attaque Dien Bien Phu et gagne. Très mauvais aussi, ça ressemble à une provocation pour les négociations de Berlin. Donc je pense que Gap était moins maître de son jeu et qu'on l'a obligé à arrêter cette offensive. La seule preuve, je la trouve là pour une fois chez Gap, c'est qu'il tape sur du poing quand on lui dit « c'est le 25 janvier ». Il passe son temps à dire « mais ça n'a jamais été le 25 janvier ». Tout le monde est d'accord, mais tout le monde, les Viettes, les Français, les prisonniers français faits par les Viettes, les prisonniers Viettes faits par les Français. Il n'y a que Gap qui truque un peu les cartes. En fait, il se rend compte que le morceau est énorme et qu'il ne l'aura que très lentement. Avance lente pour réussir sûrement.
Alors, en face, Navarre, nous l'avons bien dit, déclare, je vais y reprendre, je vais couper. Nous venons de le dire, donc Navarre, lui, est décidé à engager la bataille. Et dans cette bataille, il y a un élément peut-être que nous n'avons pas assez évoqué, et pourtant qui est très important dans la technique du hérisson, c'est l'armée de l'air. Quelle est la place de l'armée de l'air à ce moment ?
On est à environ 350 km des terrains d'aviation d'Hanoï et d'Haïphong. On dépend, à Dien Bien Phu, totalement de l'aviation. Les aviateurs ont posé leurs conditions avant de participer à cette aventure. Ils ont demandé que la piste d'aviation soit libre en permanence. Et ils ont accepté un nombre de rotations quotidiennes qu'ils ne pouvaient pas dépasser. Très vite, on leur demandera beaucoup plus de rotation. Ils ne pourront pas suivre. Il faudra engager des équipages étrangers, des équipages américains sous fausse identité, sur des avions américains repeints en couleur française. Et un jour, la piste va tomber par gap. Il n'est pas idiot. Il sait très bien que le jour où il n'y a plus de piste, il n'y a plus d'approvisionnement. Il n'y a plus la possibilité d'évacuer les blessés. Donc l'objectif va être la piste. Ça sera les combats du mois de mars. Et le jour où la piste est prise, le camp est mort. Et les aviateurs sont toujours battus contre Navarre, qui leur en demandait trop, puis en plus il y a Atlante derrière. Il faut savoir que Yen Bien Phu était une zone isolée, climatiquement difficile, et tout va dépendre de l'aviation. Alors je vais quand même corriger une chose, quand je parle d'aviation, je fais une légère erreur. Il y a eu les pilotes de l'armée de l'air, il y a eu les pilotes de l'aéronaval. Ce sont deux choses très différentes parce que quand on parle aux gens de Yen Bien Phu, des aviateurs, ils sont un peu, je dirais, carrément méprisants. Et quand ils parlent des marins, ils sont enchantés. Simplement parce que les marins ont pris infiniment plus de risques qu'à l'armée de l'air. Non pas parce que les pilotes de l'armée de l'air étaient un peu dégonflés ou un peu lâches, simplement parce qu'ils avaient des consignes de ramener le matériel. Dans la marine, on a fait tout ce qu'on a pu pour aider le camp. Pas jusqu'au bout parce que ce n'était pas possible. Mais c'est vrai que la piste perdue, tout était perdu.
Alors, Pierre Pélissier, nous disions que Navarre était décidé. Pourtant, on parle d'une opération qui s'appelle l'opération Xénophon, qui, elle, envisagerait un retrait.
Alors, c'est au moment où il est évident que le camp ne tiendra pas, avec une certaine hypocrisie, ça passe en janvier.
Nous sommes en janvier, oui.
Depuis décembre, on sait que le repli est pratiquement impossible. C'est en janvier que Navarre demande à Cogny d'étudier Xénophon. Et puis, Cogny étudie le problème, mais sans prendre contact avec Castres, dont il faudrait dire un mot d'ailleurs, sans lui en parler, pour pas que la base s'affole. Puis après, on va monter une autre opération qui va partir du Laos, la colonne de Crèvecœur, que ne commande pas le colonel de Crèvecœur, mais que commande le commandant Godard, qui s'approchera du camp à quelques dizaines de kilomètres, mais sans pouvoir les aider. Donc tous les plans de fuite sont des plans trop tardifs et qui ne peuvent pas réussir. Alors Castres, je voudrais vous dire un petit mot de Castres, parce que c'est sans doute le plus diffamé des hommes de Yen Bien Phu. Le colonel de Castres est un cavalier. On l'a mis à Yen Bien Phu pour qu'il fasse des raids, des offensives avec la dizaine de chars qu'il avait et des bataillons de parachutistes très offensifs. Très vite, il ne peut pas. Alors est-ce que Castres est un mauvais soldat? Je crois que le Castres est dans un mauvais rôle. Il n'était pas fait pour ça. Un monsieur qui arrive à Yen Bien Phu, dont il dit que c'est un sauteur de concours hippique à cheval. Je veux bien, il a deux titres de champion du monde en concours hippique. Mais il a une croix de guerre longue comme pas possible. Il a 18 palmes sur sa croix de guerre. C'est quand même pas un guerrier du dernier rang. Mais Castres n'est pas dans son rôle. Il ne peut rien faire de sérieux avec ce qu'il a comme homme qu'il ne connaît pas. C'est un cavalier, il a des fantassins. Là aussi, une erreur de distribution énorme.
Alors nous arrivons à la fin de notre émission. On a l'impression, Pierre Pélissier, en vous lisant, que tout se fait en dépit du bon sens et que l'armée française se place dans un piège, au fond, qui se referme sur elle. Est-ce que le soldat en avait conscience?
Ils en avaient tous parfaitement conscience. Je ne me contenterai d'un mot de celui qui était à l'époque le lieutenant Allaire, qui commandait les mortiers de Bijard, et qui a dit à la veille de sauter à ses hommes, nous sautons demain 15 mars pour la deuxième fois à Yen Bien Phu, je sais comment nous y allons en avion, je ne sais pas si nous en rentrerons. C'était le 15 mars.
Eh bien, c'est sur ces mots terribles, Pierre Pélissier, que nous allons nous quitter. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation d'un jour dans l'histoire. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire militaire, notamment une biographie de Massu parue l'an dernier aux éditions Perrin. Et toujours aux éditions Perrin, une monographie consacrée à Yen Bien Phu, 20 novembre 1953, 7 mai 1954. Je vous remercie encore.
Merci.
Et je donne rendez-vous à nos auditeurs à la semaine prochaine. Merci, au revoir.